Chapitre 10. 15 février 1918. Je suis seul, ma mère est près d'Olga, et Rémi m'écrit qu'il a un fils. Au milieu du bouleversement général, la naissance de cet enfant me paraît aussi étrange que l'épanouissement d'une fleur dans nos sols ravagés. Je suis allé au presbytère apprendre la nouvelle à monsieur le curé. « Voilà, me dit-il, la meilleure consolation pour monsieur et madame Saint-Simel. » Avec bonté, il me développa ce thème dont il applique les conséquences à moi-même. En m'en allant, je m'étonnais de cette facilité des autres à ranger nos sentiments intimes dans un ordre immuable et convenu. L'ordre, quand le chagrin détruit les nuances, quand il reste seul, sans phare et sans habit, devant nos regards stupéfaits. Il détruit en nous un sens, lequel, je ne sais trop. Une des conséquences de cette guerre est pour beaucoup l'indifférence. Les meilleurs deviennent indifférents au chagrin qu'ils voient passer, soit que la grandeur du cataclysme absorbe le reste, soit surtout que, fatigués par la contrainte et tant de tristesse, ils essaient d'échapper à la douloureuse ambiance. Cette remarque, assurément, ne concerne pas notre vieux curé et ami, qui ne parle de Christian qu'avec émotion. J'ai fait une longue course, si longue que j'apercevais la buée flotter au-dessus de la Marne et que j'entendais le canon plus distinctement. Depuis quelque temps, des prisonniers s'échappent assez fréquemment et on dit que le pays n'est pas sûr, mais les sentiments qui m'étreignent anéantissent les impressions secondaires. Autrefois, il me fallait raisonner pour surmonter ma poltronnerie naturelle. Aujourd'hui, je ne saurais où la retrouver. Au reste, des prisonniers qui fuient ne sont pas effrayants. Ils ont intérêt à ne commettre aucun forfait, à moins que... J'aime mieux n'en pas rencontrer, ils peuvent s'irriter en se voyant surpris, et un homme en colère est toujours à craindre. Cependant, dans les colonnes que j'ai vues passer, je n'ai jamais observé que des soldats fatigués, dont la physionomie, antipathique ou non, n'exprimait rien. Je suis rentré tranquillement, m'efforçant de recueillir les impressions d'autrefois. Elles se sont évanouies et ne reviendront plus sous la même forme. Où sont les riens aimables de la vie quotidienne? Disparus dans la tourmente, ils revivront un jour pour les enfants d'Olga, pour Olga elle-même, mais Fleur ne les verra plus jamais enveloppés du charme que j'ai connu. Que l'homme se mette au-dessus des choses au lieu de s'y assujettir. Les événements se chargent de briser l'assujettissement et aucune contrainte, aucun effort ne rivalise avec eux. Le vieil Horace devait le savoir. 28 février 1918. Mon père, me sachant seul, m'a écrit une longue lettre où il épanche son chagrin et disserte sur les choses qui l'impatientent. Il a raison de dire que beaucoup de gens sont exaspérants. Les horreurs de la guerre refont notre âme à rebours, ma chère Marguerite. Je ne suis pas méchant, mais je souhaite me rencontrer en face de celui qui a tué mon fils. Je vous prêche l'oubli, et j'ai raison, mais malgré moi, je m'irrite et m'exalte. Surtout, ne le dis pas à ta mère. Impossible de nier que je me sens, malgré tout, irritable et nerveux. Les discussions m'agacent, et nous en pouvons avoir, comme ce matin, au fond d'un gourbi. C'est exaspérant d'entendre parler de punition du ciel, avec l'aplomb de gens qui ont assisté, dirait-on, à un grand conseil de Dieu. Nous sommes punis. La France est punie. Qu'en savent-il ? L'hypocrite et fourbe et cruelle Allemagne doit-elle être victorieuse? Ce serait pousser la logique à fond. Elle sera battue, et alors? Les esprits dont je parle s'en tireront en disant que les épouvantables conséquences de la guerre, tant dans le présent que dans l'avenir, sont plus que suffisantes pour qu'un peuple soit puni, ce qui est vrai. Mais les mêmes esprits affirment que la victoire de la Marne est un miracle dans le sens surnaturel du mot. Nous sommes dignes d'être sauvés par des miracles et en même temps d'être livrés au malheur. Je sais ce qu'il répondrait, punition, mais pitié. Voilà, ce n'est pas plus difficile que cela. La Belgique est écrasée, qu'a-t-elle fait pour l'être? Elle a tenu ses engagements d'honneur, elle s'est personnifiée à des échelons différents dans trois grandes figures, le roi, le cardinal Mercier et le bourgmestre Max. Comment les dispensateurs des punitions divines accommoderont-ils leur thèse avec la réalité? Iront-ils chercher, comme l'imbécile de ce matin, les écarts de simples particuliers? Alors le monde devrait être perpétuellement en guerre, sous prétexte que les hommes individuellement méritent des punitions? Restons dans le mystère de notre destinée. C'est notre liberté qui fait le bien et le mal. Nous sommes libres de choisir et nul ne peut dire que les nations sont punies par Dieu parce qu'un homme a voulu la guerre. Ne crois pas, ma chère fille, que je devienne sombre, mais quand je vois tant de braves se faire tuer et mutiler pour leur pays, je pense qu'on devrait tenir un autre langage que celui des foudres de Jéhovah. En descendant des nations à l'insecte que je suis, je me dis que, très probablement, le meurtrier de mon fils finira ses jours en Allemagne, heureux et considéré, pendant que moi, brave homme, je vois mon enfant massacré et l'avenir de ma famille détruit. Alors je suis puni, moi aussi. Pourquoi ? Oh, je connais les raisonnements spéculatifs sur la matière. Ils ne peuvent rien contre le bon sens et contre la certitude que nous sommes totalement ignorants des décrets divins. On me parlera des grandes lignes de l'histoire, de la Providence, on me dira que je réduis la question à mon aune. Je répondrai simplement que trancher sur ces questions, c'est substituer son propre jugement à celui de Dieu, et c'est un peu fort. Allons, laissons cela. Rien d'oiseux comme les discussions, de dangereux comme les aphorismes et d'illogiques comme les gens pieux qui prennent leurs opinions pour des faits. Plus tard, chère fille, nous nous efforcerons non pas d'oublier, mais d'atténuer nos douleurs en travaillant. J'aspire à ce moment. D'abord, parce que ce sera la fin de cette guerre infernale et la fin glorieuse, je n'en doute plus, à des indices que ma causerie avec toi ne doit pas révéler. Cette lettre me fit en même temps peine et plaisir. J'entrai plus avant dans les projets d'avenir, pensant que c'était le meilleur moyen de calmer les sentiments qui demandaient à éclater. Vos projets de travail me font du bien avant même d'être en voie d'exécution, disais-je. En vous attendant, nous travaillons pour préparer d'autres travaux plus intéressants. Nos déblaiements avancent, vous le savez, à petits, très petits pas, mais c'est beaucoup avancé. Maman m'écrit qu'Olga est presque remise et que votre petit-fils est magnifique. Lorsqu'il aura frères et sœurs, nous n'aurons pas assez d'activité pour mener à bien leur avenir. Au revoir, cher père, vous avez 100 fois raison. Certaines théories exaspèrent. Restons dans le mystère de notre destinée, même lorsqu'il s'agit de la punition d'un crime. Que sera le mystère pour cet homme ? Nul ne le sait et n'a besoin de le savoir. Il me répondit que je retournais ses propres arguments contre lui-même. Il faut compter avec la passion, Marguerite. Elle met en pièce l'abstrait. Je raisonne, mais le cas échéant, la colère, une juste, une sainte colère, balayerait le raisonnement. Hélas, je le sais, et qui donc pourrait l'en blâmer ? 10 mars 1918. Je reçois une nouvelle lettre qui jette dans le néant les sentiments, la colère et le raisonnement. Ma chère fille, j'apprends que cet officier qui était dans ma région, c'est pourquoi je parlais de le rencontrer, a été tué. Je viens de l'écrire à ta mère. Il est mort en brave, je me plais à le reconnaître. Quelle part de responsabilité son éducation lui donne-t-elle dans son geste odieux ? Je la crois entière, cette responsabilité, parce qu'il était chef et non simple soldat surexcité par la guerre. À quelque nation qu'elle appartienne, la bête lâchée est toujours la bête, mais un chef ne doit jamais être inspiré par la brute qui sommeille au fond de lui-même. Nous sommes bien petits, ma chère enfant, car nous oublions sans cesse que la mort fait table rase de nous-mêmes et de nos rancunes. Je suis heureux, je te le répète, que tu entres si bien dans mes idées de travail. La tâche qu'impose la vie ne finit qu'avec elle, et notre douleur ne doit pas écraser la volonté d'agir. J'avais rencontré le facteur à l'extrémité du bourg, où des peupliers font entendre une harmonie que j'ai toujours aimée. Christian dort là-bas, au son de leurs bruissements doux et tumultueux, et mon cœur plein de lui aime à se rapprocher ainsi de la tombe isolée. Mais la lettre de mon cher père détournait mon esprit vers d'autres pensées moins stériles, et je revins plus courageuse à fleur. La guerre s'était chargée bien vite de transformer en poussière les colères légitimes et les inutiles vengeances. Les sombres pensées ne barraient plus la route au projet que mon père était si pressé de réaliser. 14 mars 1918. Ma mère est revenue et déjà, je le vois, un petit enfant exerce sur elle son pouvoir. Je suis allé la chercher et les deux nuits passées à Paris ont été extraordinairement agitées par le canon, les sirènes, les tirs de barrage et l'éclatement des bombes. Les cloches n'avaient pas fini de sonner la fin de l'alerte que les sirènes annonçaient une nouvelle attaque. Je regardais par la fenêtre, malgré l'imprudence, m'étonnant qu'Olga n'ait pas voulu quitter Paris pour la naissance de son enfant. Mais désormais, elle est cuirassée et resterait partout avec son mari. Il y a dans ses rapports avec lui un peu de timidité qui m'a touchée. Il est affectueux, avec une nuance fugitive qui affirme un droit caché. Je n'aime pas cela. À Paris, on parlait d'une offensive allemande et d'une avance certaine de l'ennemi, mais ma mère m'a dit « Advienne que pourra, je resterai à fleur. Je ne veux plus quitter mon chez-moi. Je le défendrai par ma présence. » Et nous sommes revenus, déterminés à demeurer fermes sur notre position. Mais nous sentons de l'agitation autour de nous. À quelques lieues, de continuels passages de troupes et de matériel tiennent en éveil la population. Certains jours, et même certaines heures, il nous semble que les Allemands se sont rapprochés et le canon tonne avec tant de furie que nous nous croyons dans une bataille. 20 avril 1918. À chacune de mes sorties, Simon répétait les mêmes recommandations et souvent les mêmes récriminations, car ni lui ni les autres n'admettaient encore notre attitude vis-à-vis des Allemands qui passaient malades. Le 16 mars, je partis, malgré le mauvais temps, pour ma promenade préférée. « Mademoiselle, me dit Simon qui m'arrêta, une colonne de prisonniers a cantonné cette nuit à S, quelques-uns ont trompé la surveillance. » Ce n'est pas la première fois, nous le savons, bien que, sans raison, tous les jours ou à peu près, on nous dise la même chose. Je ne sortirai jamais si je pensais toujours à ces éventualités amenées par la guerre. Comme mademoiselle voudra, mais le facteur affirme que 3 Boches ont été trouvées dans les bois de monsieur de la Robertière. Malades? Blessés? Du tout. Ils essayaient de se faufiler pour regagner je ne sais quel chemin qui les aurait conduits à leur ligne. Rien n'est sûr en ce moment, mademoiselle. Les Boches ont avancé. En tout cas, c'est le droit des échappés de chercher à regagner leur ligne. Leur droit, oui, sans doute. Mais quelquefois, on comprend ce caporal sénégalais que mademoiselle a si bien reçu avec ses camarades. Mademoiselle sait... Il a failli s'empoigner avec un brigadier de gendarmerie qui voulait le convaincre que jamais on ne devait tuer un prisonnier. Mademoiselle sait ce qu'il a répondu. « Oui, » dis-je en riant. « Toi bête, parce que si Lee a tête coupée, Lee ne reviendra plus. Mais nous ne sommes pas des sauvages, Simon. » Et j'entendis le brave homme, qui ne tuerait pas une mouche, grommeler entre ses dents. « C'est dommage, quelquefois. » Je marchai rapidement vers la pointe du Corée. Quel froid ! Il avait neigé et toute la végétation, arrêtée dans son élan précédent, frissonnait sous son voile blanc. Je revis Christian, gai et confiant. Les crocus qu'il avait cueillis ont séché dans un livre. Une nouvelle génération les trouvera sans se douter de la douleur qui s'attache à leurs souvenirs. Les pétales conserveront encore un pâle coloris et de nos sentiments intensifs, il ne restera même pas une ombre. J'étais seul et pouvais accueillir mon chagrin sans crainte d'attrister ou d'ennuyer les autres. Je sais bien que la douleur ne doit pas capturer notre âme, mais celui qui a compati à toutes les souffrances connaît la faiblesse humaine. Il a pardonné et pardonnera toujours les larmes passionnées d'un cœur malheureux. Et je me disais, ils sont en paix, les disparus, mais les pauvres vivants... Quelques flocons de neige me rappelèrent à moi-même. Je repris le chemin de fleurs en passant par les bois. Mon intention était de parvenir directement par un étroit sentier jusqu'à l'endroit bouleversé par les obus. Mais je m'arrêtai. 2 hommes en capote grise étaient assis sur une souche et je compris aussitôt que les craintes du jardinier se réalisaient. Lorsque je m'approchai, non sans émotion, je vis que l'un d'eux, la tête penchée, semblait épuisé. L'autre, plus jeune, un lieutenant, m'avait vu et s'était levé. « Mon commandant ne peut pas aller plus loin, madame, » me dit-il en bon français. « Vous vous êtes échappés ? » ?»« Nous n'étions pas prisonniers. Blessés tous les deux, moi légèrement, nous avons pu nous cacher après la dernière action. Nous espérions regagner nos lignes. »« Vos lignes, vous en êtes loin.
Pas si loin, dit le commandant en me regardant, mais je me suis trompé de direction, mes forces sont à bout.
Son visage blême, son expression surtout, indiquait qu'il était bien malade.
Si vous pouviez marcher encore, à 500 pas, vous trouverez du secours chez moi.
Avant de me répondre, il entra en discussion avec son compagnon et, tout à coup, j'eus la surprise de voir le lieutenant prendre en courant un sentier et disparaître à gauche avant que j'aie eu le temps d'intervenir.
« Il n'avait pas voulu m'abandonner, » me dit le commandant.
« Maintenant, je ne suis plus seul puisque vous voulez bien m'hospitaliser. »
Je voyais par son sourire qu'il se moquait de ma surprise.
« Il sera pris, » dis-je sèchement. « Suivez-moi. »
Il se leva péniblement et nous nous mîmes en marche vers Fleur.
Mon intention était de l'installer immédiatement dans l'orangerie où nous n'avions personne.
Le malheureux se traînait. 20 fois, je crus que j'allais être obligé de chercher un secours que je n'étais pas sûr de trouver.
« J'irai, » répétait-il, « j'arriverai. »
Enfin, nous atteignîmes l'orangerie. Bien chauffée, elle donnait une impression de bien-être que l'officier ressentit vivement.
« Il faut vous coucher, » lui dis-je. « Pourrez-vous seul ? Si c'est non, je vais envoyer quelqu'un pour vous aider. »
Il répondit affirmativement. Mais j'allais cependant chercher le jardinier.
Simon se chauffait à la cuisine avec Justine et un enfant du bourg, cousin du jardinier. Ils jetèrent les hauts cris en apprenant mon aventure.
J'avais bien dit à mademoiselle.
Eh bien, Simon, où est le mal? Je suis même assez fière de ramener un prisonnier, mais j'aurais voulu ramener les deux, et j'en veux à ce lieutenant d'avoir fui si tranquillement sous mes yeux. L'officier qui m'a suivi est blessé, très malade, je crois. Allez voir s'il a besoin de votre aide.
Simon se leva lentement, mais sans bouger de place.
Je ne m'occuperai pas de lui, mademoiselle. Je n'admets pas des Allemands ici, je l'ai dit bien des fois. Dans cette maison, à peu près démolie par eux, en face de l'usine ruinée, sans parler de...
Il s'arrêta, mais j'avais bien compris son allusion à la fin de Christian.
« Simon a raison, mademoiselle, » dit alors Justine. « Pourquoi mademoiselle n'envoie-t-elle pas ces vilaines gens au bout, chez monsieur le curé, par exemple ?»
Je répondis impatiemment. « Je connais vos raisonnements, ils ont été assez répétés. Mais vous avez toujours vu qu'ils n'aboutissaient à rien. Je ne vous comprends pas, Simon, car vous connaissez les lois de la guerre. »«
Ah, si c'était pour l'emprisonner, j'en serais, » grommela Simon. « Mais le soigner, non !»
Allez toujours avec Justine voir ce dont il a besoin.
Je montai chez ma mère qui, souffrante, gardait la chambre. Elle écouta mon récit avec grand intérêt. Malgré l'horreur que, depuis la mort de son fils, lui inspire tout Allemand, son cœur et son sentiment du devoir intransigeant restent ses guides.
Est-il vraiment très malade, Marguerite?
Je le crois.
Alors préviens l'adjoint sans tarder. Il examinera ses papiers et s'occupera de le faire transporter dans une ambulance bien organisée.
Je vais envoyer Simon. Seulement, comment avoir un médecin?
Mais Justine, intelligente, avait déjà expédié le petit cousin de Simon pour chercher le docteur si, par hasard, il était dans le bourg. Une demi-heure après, j'eus la surprise de le recevoir. Il examina le malade et me dit « C'est grave, sans doute. » Sa blessure n'est pas très sérieuse, mais il y a épuisement, fièvre et un point pleurétique nettement caractérisé. Aucun danger immédiat. De la chaleur, un repos complet, légère alimentation. Je reviendrai demain. Il est trop fatigué pour appliquer ce soir un vésicatoire. Il dort déjà et passera une nuit tranquille.
Sera-t-il transportable demain dans une ambulance?
Ah, ça, je n'en sais rien. Nous verrons l'effet produit par le repos et les bons soins.
Ce docteur, ennemi de la loquacité, ne posa aucune question et me quitta avec la précipitation d'un homme qui n'a pas une minute à perdre. Il cumulait les clientèles de 3 médecins mobilisés. Pour moi, je me permettais de ne point partager son opinion et de croire le malade aux confins de la vie.
Ni Justine ni Simon ne voudront veiller, dis-je à ma mère, après lui avoir appris le diagnostic du médecin.
Je ne veux pas que tu veilles, toi. Notre devoir est rempli en l'hébergeant, en lui donnant les adoucissements compatibles avec son état. Restons-en là.
Soyez tranquille, nous mettrons des boissons rafraîchissantes près de lui, et Simon, de la chambre où il couche maintenant, l'entendrait sonner. Après mon dîner solitaire, je reçus Muret qui désirait me parler. Il apprit, avec son irritation coutumière, que j'avais recueilli un Allemand. « Encore un ? Sa place n'est pas ici, mademoiselle. » « Il est bien malade et les lois de la guerre ne doivent pas être enfreintes. Vous le savez bien, Muret. »« Il les viole toutes, mademoiselle. » »« Raison de plus pour ne pas les imiter. Nous ne sommes pas dans l'excitation de la guerre et n'aurions aucune excuse en n'agissant pas avec humanité et correction. » « Comment pouvez-vous dire cela, mademoiselle, après ce qu'ils ont fait à votre famille ?»« Nous n'avons pas à discuter avec le devoir, Muret. » Dans de semblables circonstances, je ne comprends pas où nous prenons nos paroles et nos décisions. Transportés brusquement en face d'incidents anormaux, nous acceptons ces incidents comme s'ils étaient entrés dans la vie normale. « Venez le voir, Muret, venez. Vous me direz si je me trompe en le croyant perdu. » En tout cas, il est assez malade pour n'inspirer que de la pitié. Il me suivit dans l'orangerie où Justine avait allumé la lampe et une veilleuse. Le malade dormait profondément. Près de lui, sur la table, il avait posé sa montre, son porte-monnaie et un portefeuille. Muret le contempla avec dégoût et colère après avoir regardé sur l'uniforme le numéro du régiment. « Je vois, il est très malade. Il n'appartient pas au régiment qui a détruit la raffinerie. Heureusement pour lui, car, par ma foi, j'aurais tenu mon serment. »« Pas devant moi, je vous l'assure. Êtes-vous fou, Muret ? À quoi songez-vous ? Et croyez-vous, mademoiselle, que dans le cas dont nous parlons, tous les ouvriers ne se soulèveraient pas ? Ne nous occupons pas des ouvriers, mais du devoir que les circonstances imposent. » « Je sais bien que mon opinion n'a pas force de loi, mademoiselle, mais je proteste de toutes mes forces. Des Allemands, ici !» L'adjoint, qui n'était pas chez lui quand Simon était allé le chercher, entra et entendit les derniers mots du contremaître. « Mademoiselle Saint-Simel est libre d'agir comme bon lui semble, vieux Muret. »« Parlons plus bas, » dis-je en montrant le malade. « Il dort si bien que je crois maintenant à une nuit tranquille pour lui. » Fortin le regarda, haussa légèrement les épaules et s'empara du portefeuille en disant « Voyons à qui nous avons affaire. » Ils s'éloignèrent près de la lampe et moi, j'avançai plus près du lit. La lumière de la veilleuse éclairait le visage dont les traits, assez accentués, ressortaient vigoureusement sous les ombres portées et lui donnaient une expression très différente de l'expression sympathique que j'avais remarquée dans le bois. Avait-il une femme, des enfants ? Était-il capable d'aimer comme un Français ? Je me posais cette question bizarre, oubliant un instant que l'homme est le même partout. S'il mourait, comment instruire sa famille ? Tout à coup, je tressaillis aux cris étouffés des deux hommes. « Mademoiselle ! Mademoiselle Marguerite ! » « Qu'est-ce donc ? » dis-je en m'approchant d'eux. « Regardez, mademoiselle, regardez, il a connu M. Christian. » Fortin me tendait des photographies de ma famille et des lettres, celles de mes parents, les miennes. Une lettre encore cachetée de Christian portait l'adresse de ma mère. Nous nous regardions d'un air effrayé, frappés par la même pensée. Mais non, ce n'était pas possible. Mon père, dans ses lettres, était revenu avec des détails précis sur la mort de l'assassin. Instinctivement, je cachai dans mon corsage les lettres et les photographies en regardant la porte avec inquiétude, bien que je n'eusse pas à craindre l'arrivée de ma mère. « Asseyez-vous, mademoiselle, me dit Fortin, asseyez-vous. Imbécile que je suis, pardonnez-moi, j'aurais dû vous cacher. » Il fit un geste de menace vers le lit et Muret, hors de lui, s'est lancé déjà quand je me jetai devant lui. « Silence, du calme, Muret !» C'est à peine si j'eus conscience d'avoir parlé, tant ma voix était faible et tremblante. Muret luttait avec moi pour se dégager et Fortin hésitait. « Muret, c'est indigne ! Vous vous oubliez ! » m'écriai-je. « Vous vous oubliez !»« Il faut l'achever, l'achever comme un chien, si c'est lui qui a tué M. Christian. »« Et si ce n'est pas lui ? » dis-je haletante. « Si ce n'est pas lui ! Vous savez bien ce que nous a écrit mon père. Il était sûr de ses renseignements, il l'a répété dans ses lettres. Les hasards de la guerre ont livré les lettres et les photographies à cet Allemand. « Fortin, aidez-moi, empêchez un malheur, vous faites fonction de mère. » Fortin saisit le bras de Muret et appuya vivement mon idée. « Mademoiselle Marguerite a raison, le hasard a dû donner les papiers à cet officier. Tenez-vous tranquille, Muret, asseyez-vous, calmez-vous. » Le vieux contremaître, maté par nos paroles, s'assit un peu confus, mais en grondant. « Ah, si j'étais sûr, il ne mourrait que de ma main !»« Taisez-vous, Muret, m'écriai-je, c'est odieux !» Après cette scène aussi courte que violente, nous sommes demeurés longtemps silencieux. Je reprenais un peu de sang-froid. « Vous êtes mieux, mademoiselle ?» me dit respectueusement l'adjoint. « Oui, mieux, malgré Muret, » dis-je avec irritation. « Pardonnez, mademoiselle Marguerite, pardonnez !» me dit le pauvre homme. « Mais quand je pense que ce brigand pourrait être l'assassin de mon cher monsieur Christian !» Il s'arrêta en se frappant le front et en murmurant « Je ne sais plus ce que je dis. Vous, vous êtes sa sœur et vous l'aimiez tant. »« Mademoiselle, me dit Fortin, dans ce doute si douloureux pour vous, ne jugez-vous pas préférable que cet officier ne reste pas ici ?»« Oh oui, bien préférable, répondis-je avec ardeur. Descendons au bourg, Muret. Nous apporterons une civière et nous débarrasserons Mademoiselle Marguerite de sa présence. » « Où le porterez-vous » demandai-je. « N'importe où, » répondit brusquement Muret. « Si personne ne veut le recevoir, nous le déposerons dans une carrière. Tout est bon pour un pareil bandit. » Je m'approchai d'une fenêtre. « Pauvre cher Christian, si aimé, si charmant. Quoi, était-ce son assassin que nous avions recueilli ?» La neige tombait, une neige mélangée de pluie et de grésil. Emporter cet homme par un temps pareil, c'était, sinon l'achever, du moins lui faire beaucoup de mal. Mais ce misérable lâche devait-il être soigné ou mourir sous notre toit désolé dans la demeure de sa victime? Quelle angoisse! Bientôt, j'eus l'intuition qu'il était inutile de lutter avec moi-même, que du fond de mon âme montait une idée plus haute qu'une idée humanitaire et qu'elle l'emporterait sur mon horreur. La parabole du bon samaritain traversa mes mémoires, et bien que l'analogie ne fût pas exacte, ce suave souvenir m'éclaira, tant il est vrai que toucher seulement le vêtement du Christ suffit pour ressaisir ses forces et revoir la claire lumière du devoir. Je me tournai vers les deux hommes qui attendaient silencieusement. « Il restera ici, » dis-je simplement. « Mademoiselle, que dirait votre père ?» « Mon père est loin, Muret, et c'est moi qui commande. Je n'ai pas le droit d'aggraver l'état de ce malheureux, et s'il doit mourir, qu'il meure tranquille. » Mon ton était sans appel. Ils le comprirent et n'osèrent insister. « Et nous, que devons-nous faire ?» demanda Muret d'une voix où sourdait la colère. « Retournez chez vous et gardez le secret sur tout ceci. Le médecin affirme que le malade passera paisiblement la nuit. » Il dort si profondément que nous ne l'avons pas réveillé. S'il s'éveille, il a près de lui le nécessaire, il sait qu'il peut sonner, qu'on l'entendra, nos arrangements sont donc suffisants, et moi-même, je m'en vais. » J'ouvris la porte, ils sortirent en silence. Mais, après quelques pas, ils revinrent vers moi et me tendirent spontanément la main. Je la leur serrai chaleureusement. « Vous m'avez comprise, vous êtes de braves gens, je le sais. » Mais il est naturel que le premier mouvement vous ait aveuglé. Et vous, mademoiselle, vous êtes trop bonne, répliqua Muret, dont la colère était combattue par une émotion de notre ordre. Pendant qu'il s'éloignait, j'allais dans la cuisine où Simon et Justine m'attendaient. Que fera-t-on, mademoiselle? Rien pour le moment, bien entendu. L'adjoint prendra demain ses dispositions. Justine regarda Simon et dit en hésitant: « S'il le faut absolument, nous veillerons, mademoiselle. »« Je n'en doute pas si je vous le commande, mais c'est inutile. Couchez-vous, le malade dort. Vous me prouverez votre bonne volonté en venant demain de très bonne heure. » Ils parurent soulagés et Simon s'empressa de me dire « Au petit jour, je serai levé. Mademoiselle peut être tranquille et se reposer. »« D'autant que mademoiselle a l'air bien fatiguée, » dit Justine qui m'observait. « Ce n'est rien. » mais je l'entendis qui disait à Simon « Il y a quelque chose, pour sûr. Mademoiselle ne perd pas si facilement son air tranquille. » Tranquille ! Oh non, je ne l'étais pas. Après avoir mis sous clé les lettres et les photographies, je me promenais longtemps dans une agitation insurmontable. Plus je réfléchissais, plus ma conviction s'affermissait et je ne respirais qu'en songeant que, le lendemain, si le blessé passait une bonne nuit, on le transporterait loin de fleurs. Je m'étendis sur mon lit avec l'espoir que le sommeil mettrait fin à mes pensées désordonnées, mais aucun assoupissement ne calma mes nerfs surexcités. Quelle nuit lugubre ! Le vent sifflait dans les parties béantes de la maison. La pluie qui succédait à la neige fouettait les vitres et ma solitude m'impressionnait affreusement. Je me levai et, soulevant le rideau, je regardai avec horreur la lumière qui s'échappait de l'orangerie. Il allait peut-être mourir seul, celui que je soupçonnais d'avoir si cruellement agi. S'il s'éveillait et n'avait pas la force de sonner, nul ne viendrait près de lui. Dans l'isolement de cette maison inconnue, loin des siens, loin de toute sympathie, il fermerait les yeux à la lumière qu'il avait vue commettre une si lâche action. Mort bien douce, relativement à tant d'autres, dans cette guerre atroce déchaînée par l'Allemagne, néanmoins, elle me hantait comme un reproche. Par-delà les siècles, j'entendais une voix convier les cœurs endurcis à une bonté supérieure. Bienheureux les miséricordieux! Je pris un manteau et descendis doucement. Quand j'ouvris sans bruit la porte du jardin, une rafale de vent me repoussa si violemment en arrière que j'eus peine à sortir. Le coin de la maison à contourner, une allée à traverser, et, déjà trempé, j'entrai dans l'orangerie. Je pris la lampe et la posai près du malade qui m'effraya. En si peu de temps, il paraissait extraordinairement diminué. Il ne dormait pas et leva vers moi un regard angoissé. « Souffrez-vous ? » dis-je avec effort. « Non, mais je suis très mal, je le sens. Je vais mourir, je crois. »« Ce n'est pas l'avis du médecin. »« C'est le mien. J'ai une femme, des enfants. »« Vous désirez qu'on leur écrive ?» « Oui, si vous le voulez bien. L'adresse, dans mon portefeuille. » Je lui tendis le portefeuille dont il retira lui-même une enveloppe, mais s'apercevant qu'on l'avait ouvert, car il avait tout son sang-froid, il m'interrogea. « L'adjoint de la mairie l'a examiné, dis-je. C'était son droit. Des lettres et des photographies appartenaient à un jeune officier français. À renvoyer à sa famille, si vous le jugez bon. Un lieutenant, je sais, tué près de Moronvilliers. » Tué quand il était blessé, par vous ? C'est la guerre, madame. Et il me tendit l'adresse qui tomba à mes pieds. Étonné de mon immobilité et de mon silence, il m'examina avec inquiétude, puis son regard se fixa comme celui d'un homme qui réfléchit. Vous dites tué quand il était blessé ? Comment le savez-vous ? Le lieutenant Saint-Simel était mon frère. Nous savons par des témoins. Ses yeux se fermèrent un moment, mais il demeura impassible. « Ah, je regrette, » dit-il en me regardant, « mais... » Son ton indifférent exprimait toute sa pensée. La guerre a donc le don de transformer la nature, de déguiser le crime sous un nom d'emprunt. « Alors, » reprit-il, « vous refuserez d'écrire à ma femme. » Il allait mourir, je le savais, je le voyais, et dans l'éternité où nous entrerons tous un jour, que compterait ma répulsion en regard d'une action généreuse ? J'écrirai, dis-je fermement. Merci. Ce fut sa dernière parole, il s'endormit bientôt d'un lourd sommeil. Il ne devait en sortir que pour pénétrer, le jour suivant, dans le royaume où les actions sont jugées dans la vérité. Bienheureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Et bienheureux les miséricordieux, parce que, sans attendre, ils voient Dieu. Comment nos propres forces nous amèneraient-elles à des actes qui révoltent si complètement la nature ? C'est Dieu qui ouvre leur cœur, manifeste sa présence, et, dans la divine inspiration qu'il nous donne, étend son aile sur le coupable. Quelle étrangeté ! Mon père souhaitait que la guerre le mît en présence de cet homme pour le punir, et la guerre l'a fait mourir en paix chez lui. J'ai écrit à la femme du commandant. « Madame, votre mari a été recueilli chez moi, blessé et très malade. » Pendant la nuit qui a précédé sa mort, j'étais près de lui, soupçonnant fortement, d'après les papiers trouvés dans son portefeuille, que sur le champ de bataille, il avait d'un coup de revolver achevé mon frère blessé. Lui-même m'a avoué le bien fondé de mes soupçons. J'ai promis cependant de vous écrire. Il pensait à vous, à ses enfants. J'accomplis ma promesse. Sa fin a été douce et entourée des égards dus à un prisonnier de guerre. J'ai envoyé ma lettre par la Croix-Rouge de Genève. Elle parviendra, je suppose, à son adresse. Voici le jour. Ma nuit s'est passée à écrire un récit que je désirais garder dans mes souvenirs. Comment serais-je jugé? Je l'ignore. Les témoins ne sont pas discrets, des allusions me l'ont prouvé. Du moins, nul ne saura que mes soupçons étaient devenus une certitude.